Bonsoir à tous, bienvenue dans Cop Noir. Vous êtes bien sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. La saison est terminée, ok, mais on voulait quand même faire une dernière émission exceptionnelle. Cop Noir ce soir, c'est plus d'une heure avec nos supporters lensois, nos supporters lillois, mais aussi les journalistes qui ont suivi tout au long de la saison les équipes du LOSC et du Racing Club de Lens. Alors au sommaire ce soir, eh bien, on va commencer avec nos supporters lensois. On va revenir sur cette saison record. Une deuxième place assurée avec 84 points. Les Sangayors qui vont retrouver enfin la Ligue des Champions. Mais attention au mercato et au possible départ à venir cet été. Le point sur tous les mouvements à venir dans quelques instants. À Lille aussi, l'été va être long. Entre joueurs en fin de contrat et barrage de Ligue Europa Conférence en août, Olivier Létang et Paulo Fonseca ont du pain sur la planche. Et puis à la fin de cette émission, ce sera l'heure de notre grand quiz. Qui des supporters lillois ou lensois seront les plus calés sur cette saison qui vient de se terminer ? Réponse dans 45 minutes. Vous pourrez jouer vous aussi, et grâce notamment aux réseaux sociaux, le hashtag COPNOR sur Twitter pour eh bien, répondre à ces questions, mais aussi réagir tout au long de la soirée sur les différents débats. Évidemment, on attend vos messages. Et laissez-moi d'abord vous présenter nos supporters lensois ce soir en plateau. Bonsoir Julien Castagnoli.
Bonsoir.
Ancien commentateur du Racing Club de Lens. Bonsoir Simon et Alexandre Vianne.
Bonsoir.
Et Mohamed Zeraoulia, qu'on n'oublie pas. Donc quatre supporters vraiment hein, en plateau. On va parler pendant une bonne vingtaine de minutes de cette saison record pour le Racing Club de Lens. Si on prend juste le classement, 84 points en tout. Saison record pour un club du Nord. 25 victoires, 9 nuls, 4 défaites, 68 buts pour et 29 buts contre en un mot. Comment qualifier cette saison ?
Exceptionnel.
La meilleure saison de l'histoire, même s'il n'y a pas de titre. Okay.
Ça commence bien, ça.
Ouais, magnifique, moi.
Magnifique.
Merveilleuse.
Donc, on parle vraiment de record. On est sur quelque chose de mémoire de supporter, pas vu.
Non.
De jamais vu.
Jamais.
Quels sont les enseignements qu'on peut garder de cette saison ? Sur quoi il faut construire pour les prochaines années ?
C'est la continuité, moi, je pense. Ça fait 3 ans que Francaise a pris les rênes de l'équipe, un tout petit peu plus, 2-3 ans, parce qu'il avait fait 2 matchs en Ligue 2. Mais il travaille super bien à la restructuration du club. Le fait de garder le même système, la même philosophie, dès la formation jusqu'à l'équipe première, et d'insuffler les mêmes valeurs à tous les joueurs qui arrivent. On sélectionne des profils qui correspondent à notre philosophie. Et ça prouve quand même que quand on laisse un petit peu le temps de travailler...
C'est quoi alors cette philosophie ? Est-ce qu'il y a un mot pour définir cette philosophie ?
Bah, c'est l'humilité, le respect des tactiques mises en place, et puis chacun à sa place, quoi.
Retour aux valeurs du club, de la région, très clairement.
Alors si on regarde par rapport à l'an dernier, Lens était 7e avec 62 points. C'est donc 22 points de moins, 17 victoires, 11 nuls, 10 défaites, 62 buts pour et 48 buts contre. C'est-à-dire que les Lensois ont pris 19 buts de plus l'an dernier. Lens, cette saison qui est meilleure défense du championnat, et même parmi les meilleures défenses sur les 5 grands championnats européens, ça fait partie là aussi de la base du jeu de Francaise.
Ouais, après moi, la vraie différence, en fait, j'ai trouvé qu'on gérait mieux nos matchs. On a toujours eu un jeu offensif, on a toujours voulu se créer beaucoup d'occasions, mais je trouve que dans la gestion du match, dans les temps forts, les temps faibles, je l'ai trouvé meilleur. Et puis bah, après, on rentrera dans le détail après avec les joueurs, mais c'est sûr que rien que l'arrivée de Brice Samba, ça change tout parce qu'on avait un
ça manquait d'expérience en fait les années précédentes.
Bah, disons que Léka, il a de l'expérience, par exemple. Mais,
Cahuzac aussi.
Oui, carrément. Mais je pense qu'on a cranté en termes de qualité. Mais aussi, ouais, je pense qu'on a très bien appris de nos erreurs. Et après, le sprint final qu'on a fait, ouais. Il est juste monstrueux. Donc,
puis t'as Danso Medina qui jouent ensemble depuis plus de 2 ans. Gradit qui est là depuis 3 ans. Mine de rien, c'est la même défense que l'année dernière. Mais ils se connaissent tous très bien.
C'est la continuité, en fait. Hein, parce que si on regarde aussi l'année dernière, il y a 2 temps. Dans la saison de l'année dernière, il y a déjà le début d'année 2022. Qui est un peu sur des temps bien supérieurs. Et en fait, Lens continue à performer avec les renforts qu'il y a eu au Mercato. Mais cette saison exceptionnelle qu'on a vécue, elle avait déjà été amorcée en fin de saison dernière.
Et si on regarde donc, on parle de cette défense, qui est donc une des meilleures d'Europe, il y a aussi le fait qu'à domicile, Lens est imprenable, ou presque, puisqu'il y a donc Lens qui est meilleure équipe à domicile. Premier ex aequo dans les 5 grands championnats avec Manchester City, et troisième à l'extérieur. Pourquoi pas, on va évidemment parler de cette Ligue des Champions, Manchester City, qui est donc, ça reste du très très lourd. Mais là aussi, le fait d'avoir eu tous ces matchs à quasiment guichet fermé, si on met l'exception de celle avec la tribune en partie fermée dans la Marek, là aussi c'est un vrai point fort.
Bah, on joue à 12. clairement.
C'est vrai. Là, on peut vraiment parler du 12e homme. C'est vrai que toute la saison, le public était présent, a répondu présent, a poussé son équipe. Et tout à l'heure, tu parlais d'humilité et compagnie. C'est cette continuité avec l'osmose entre l'équipe et le public. Le public se reconnaît dans l'équipe et l'équipe joue, entre guillemets, pour le public. Quoi.
Ouais, c'est pas que ça, c'est pas que le beau jeu, c'est aussi les valeurs et l'identité du club. Quoi. On se reconnaît pleinement dans ce qui se fait sur le terrain.
On a gagné en étant moche cette année, ce qu'on n'arrivait pas à faire l'année d'avant et l'année précédente.
Ouais,
et
puis je pense qu'il y a eu moins aussi.
Pas moche tous les matchs, hein, mais les matchs où on était moche, on a réussi à prendre des points.
Et même la période de creux qu'on a eu un peu dans le même timing, mais bon, l'après-Coupe du Monde, il n'a pas été très très facile à gérer. Mais là, on sentait qu'il y avait beaucoup plus de sérénité. Enfin, moi, après, c'est un ressenti, c'est toujours pareil. Mais on
il n'y a eu aucune crainte dans ce moment de creux vous, que justement
moi, très premier degré de supporter, je dis, vas-y, c'est mort. Non,
pas tellement. Parce que le contenu des matchs était bon.
Il y a deux avis vraiment différents.
Moi, malgré le fait qu'il y a eu deux défaites et deux matchs nuls après la victoire de Auxerre, je me suis toujours dit que ça allait reprendre parce qu'il y avait un petit creux, c'était un passage obligatoire, mais qu'ils allaient reprendre.
Mais tu l'avais dit à l'émission à l'époque, d'ailleurs, je m'en souviens.
Mais il y avait du contenu, ça c'était intéressant, mais ce qu'il y a aussi, je crois qu'on en avait parlé, c'était une période où il y avait un match tous les trois jours. Mm-hmm. Et je pense que c'est un indicateur pour l'année prochaine, puisqu'il y aura la Coupe d'Europe. On a l'impression que Lens a eu un petit peu plus de mal à gérer cette période, qui était un petit peu plus dense en termes de matchs.
C'est pas forcément une bonne nouvelle alors quand il y a la Ligue des Champions qui arrive, même s'il y aura moins de rencontres, puisque de 20, la Ligue 1 passe à 10 équipes.
Oui, alors on peut bien l'anticiper, etc. Je pense quand même que le club a vite compris qu'on serait dans le top 5 et que globalement on serait en Europe, donc je pense qu'il y a des choses qui ont été anticipées. Mais moi, c'était surtout pour revenir sur le bas de creux. Il y a eu quand même l'affaire Ghisolfi, j'exagère peut-être un peu, mais mine de rien.
Le départ du directeur sportif.
Il y avait tout un timing où là on s'est dit, oula, la machine elle s'enraye. En soi, on n'avait pas non plus. Je pense que la grosse force, c'est qu'on a été très épargnés par les blessures cette année, à part Wesley Saïd, Machado, etc. Mais c'était des joueurs plus dans la rotation, on va dire.
Cabot quand même en début de saison.
C'est Gradit qui est
Gradit.
Non mais Gradit, il a pas eu une blessure longue durée, je veux dire il a fait un mois.
Et puis son match de reprise, il est énorme.
Ouais. Oui, et en plus, mais on a eu quand même un effectif de 14 joueurs très présents tout le temps, donc ça c'est canon quoi.
Et des choix à un point du PSG.
Non, parce qu'ils auraient fini plus haut s'ils avaient été.
C'est ce qu'on se dit, parce que sinon on serait vraiment.
Moi je me dis que la image perdue par le PSG, ils sont champions.
Oui, parce qu'ils font rentrer leur troisième gardien.
Le regret, c'est le match au Parc en fait.
Ouais.
C'est le carton rouge.
C'est le carton rouge.
Je pense que tu demandes à tous les supporters lensois, tout le monde aurait kiffé voir le match à 11 contre 11. Quoi.
Et donc, juste un dernier point dans cette année record. Record aussi du nombre de buts marqués par Loïs Openda, qui bat donc Boli, avec donc 21 buts marqués par le buteur belge cette année du côté du Racing Club de Lens. On va passer maintenant sur un bilan un peu plus factuel de cette saison. Qui pour vous était le meilleur joueur côté lensois?
Samba
aussi.
Samba.
Danso, moi.
Danso.
Medina.
Donc, on est vraiment donc sur la défense. Ouais. Non, ça joue pas, mais on retient quand même surtout eux.
En fait, on peut en citer plein.
Clairement. C'est ça.
Voilà,
donc, on en ressort qu'un, quand même.
Mais voilà, Samba, c'est vraiment la meilleure recrue.
Ouais, parce qu'il sécurise derrière.
Ça tombe bien, c'était la question qui arrivait. Du coup, on va pouvoir y avancer. Non, d'abord, est-ce qu'il y a un joueur qui vous a le plus déçu dans l'effectif lensois? Là aussi, il n'y en a pas beaucoup.
Pereira da Costa, moi.
Je pensais à lui aussi parce que bon, on peut toujours facilement dire Bouxa, mais il a été blessé, il a du mal à s'intégrer. Mais Pereira da Costa, on sent qu'il y a la magie dans les pieds, mais il pèse pas en fait. Toujours
il
pas,
a eu lui aussi, il a quand même quelques pépins physiques.
Mais il a un plafond disparu, de verre qu'il n'arrive pas à dépasser.
Il a un peu disparu après une blessure et il a pas.
Et il y a Thomasson, il y a plusieurs autres qui sont à son poste aussi au mercato hivernal.
J'ai l'impression qu'il a pas bien géré la concurrence avec Fulgini et Claude Maurice.
Parce qu'il a quand même pris la place de Kakuta à l'époque. Et plein d'espoir, et puis après il a un peu disparu.
La recrue donc pour vous, donc Brice Samba évidemment. Brice Samba.
Thomasson.
Thomasson
aussi. Voilà.
C'est drôle qu'on cite même pas Openda.
Il a quand même aussi. Il a fait une super saison, mais je l'ai pas trouvé.
Lui aussi, il a une saison en deux temps.
Il a beaucoup claqué sur la fin de saison, mais à un moment, il était même plus titulaire. Il était sur le banc, il faisait des bouts de match.
Quel était le plus beau match que vous ayez vu cette saison? Le meilleur match?
Lens-Monaco.
Donc là, c'est une victoire 3-0. La victoire 3-0.
Moi, Lens-Reims, victoire 2-1 à 10 contre 11.
10 contre 11, sur la fin de saison.
J'allais dire Lens-Monaco, mais il y a Lens-Paris aussi.
Lens-Paris, donc là c'est le match, le 1er janvier,
le 3, effectivement,
ouais, la victoire.
Bah, il y en a plein en fait, et du coup je vais en citer un autre, c'est Lens-Lorient, début de saison, oui, ouais. Très spectaculaire, 5-2. Ce match 5-2.
Effectivement, ouais. Oui, donc effectivement c'est là toujours beaucoup de ouais. spectacles. Est-ce qu'il y a votre pire souvenir cette saison, le match qui vous a qui est le plus frustrant, on va dire?
Moi clairement c'est pas du championnat, c'est de la coupe, c'est Nantes. La okay. défaite à Nantes, voilà. Après, si on parle de championnat...
Parce que la coupe, elle était accessible, passé ce
match-là. Ah oui, c'était l'année ou jamais, je pense, clairement. Mmh. Clairement.
Ouais, parce que Paris sorti ouais. par Marseille, ouais, etc. Ouais, ouais,
ouais. Puis Marseille, qui, bon, qui on ne savait pas encore, mais ouais, il perd juste derrière.
Si, ouais, ouais. On n'aurait peut-être pas fini la saison de la même manière. Enfin bref.
C'est possible, ouais. Ouais.
Moi, c'est 3 lances. Je trouve que c'est un match qu'on aurait dû gagner. On fait 1-1 là-bas. Ça m'avait bien énervé à l'époque.
Moi, Nantes lance aussi.
En plus, Coupe de France, on peut encore.
Ouais, Coupe de France, c'est la semaine Guizofi en plus. C'est avant le derby, enfin, c'est la semaine Laura. Terrible.
Moi, c'est Lens-Auxerre, victoire de Lens, mais 1-0, mais
un match. Ouais. C'était
ouais. très c'est, mon Dieu, j'en reviens pas.
Et est-ce qu'il y a un but pour vous qui représente cette saison lensoise?
Alors, si c'est la question, c'est ce qui représente, ce serait celui de Fofana contre Marseille,
le plus beau, le
parce
plus...
qu'il débloque le truc. Ah, après, moi, je repense à Lens-Lorient, le but de Sotoka,
ouais.
qui met comme ça du talon, lucarne opposée.
Sur le centre de Machado, ouais, c'était celui-là. Centre de Machado.
Mis par ce but, il est incroyable.
Extérieur pied droit, il loge sur la lucarne opposée, ouais. franchement, ouais.
Moi, je suis très sur Lens-Reims, le but de Fofana, le 2-1.
Là aussi, donc, ouais, 10 contre 11, etc., ouais. pour le scénario.
Moi, le but de Saïd. Où il en dribble 3 dans la surface. Je me demande si c'est pas contre Lorient.
C'est Lorient, contre Lorient, ouais.
Alors on va faire juste rapidement un point sur les 10 internationaux dans les rangs du Racing Club de Lens, puisqu'il y a des matchs internationaux. Le foot continue encore un petit peu. Donc Abdoul Samed retenu avec le Ghana, Danso en Autriche, Frankowski en Pologne, Aïdara pour le Mali, Machado en Colombie, Medina en Argentine, Opendor en Belgique, Pandore aux Comores, Samba avec l'équipe de France évidemment, et Jean Onana avec le Cameroun. Un mot de la reprise aussi, le staff qui fera son retour le 29 juin, les joueurs qui vont faire des tests, ils vont reprendre le chemin de l'entraînement le 3 juillet avec le retour des internationaux. Ce sera le 10. Il y a un stage en Savoie prévu du 17 au 23 juillet et il y aura ensuite les matchs amicaux. Il y a une nouveauté aussi pour la saison prochaine, c'est le maillot. Ça a été encore une fois annoncé de manière très originale et si vous n'avez pas vu passer ça, eh ben on vous fait découvrir ça tout de suite.
Oh les gars, vous avez rien vu?
Kev, tu l'as vu?
Oui, j'ai vu.
Qui? T'as vu toi?
Oui, c'est vu.
Oh les gars, vous avez rien vu?
Alors très rapidement, ce nouveau maillot, donc très jaune avec les petites bandes rouges sur le côté, on en pense
pourquoi
quoi
ouais.
C'est bien. Non, je sais pas comment vous décrivez ça. Mais comment vous décrivez? Alors ok, c'est jaune avec du rouge, voilà, et c'est formidable, c'est du rouge et du jaune.
Il y a un problème avec le jaune, j'ai l'impression.
En fait, il faut voir avec le short, mais moi j'aime beaucoup. Bah, je préfère à celui de cette année.
Ouais, voilà.
C'était vraiment raté.
C'est en comparaison, du coup.
Ouais. De toute façon, ce qu'on disait en off, c'est qu'on n'est pas fan du design de chez Puma. Ouais.
Ah, ça, c'est encore un autre problème. Il y a encore au moins
Adidas et Nike, comme ça, j'ai dit d'autres marques.
Merci pour ça.
Il y a un message.
Donc, tu l'achètes cette année?
Oui.
Oui.
Pour
oui.
le patch Ligue des Champions,
c'est évidemment.
Ouais, c'est obligé. Beau.
Pareil.
Ah oui, donc unanimité sur ce maillot Puma quand même.
Oui, quoi qu'il arrive.
Et sur le coup de com aussi.
Ouais,
sur le
coup de com, ça, ils ont été fous, extrêmement forts.
Qui reste quand même très très fort. On se quitte quelques instants. On finit de parler fripe et chiffon entre nous. On va parler Coupe d'Europe. Ah non, c'est surtout ça qui nous intéresse. À tout de suite. On est de retour dans Cop Nord avec le fameux petit badge Ligue des Champions sur le très beau maillot du Racing Club de Lens, on a compris. La Ligue des Champions, donc, on va déjà parler de la progression. En 3 ans, le club qui est passé de 7e aussi l'année suivante, puis là vraiment 2e en battant tous les records. record de matchs à guichet fermé aussi, ça on en a parlé. Et donc la Ligue des Champions qui arrive l'année prochaine, on connaît plus ou moins les chapeaux de Ligue des Champions qui font quand même pas mal rêver. On voit donc bah forcément le chapeau 1, c'est celui qui est monstrueux. Le chapeau 4, c'est celui où sont donc les Lensois. Et quand on regarde bah, le chapeau 2, il y a United, il y a le Real, il y a l'Inter, Dortmund. Bref, on regarde le chapeau 3, il y a aussi le Milan AC et la Lazio. Il y a moyen d'avoir des très grosses poules. Il y a des poules peut-être un peu plus accessibles. Mais est-ce qu'il y a des équipes qui vous font rêver, que vous voulez vraiment voir à Bollard l'année prochaine?
Ah ouais, moi,
il y en a, il y en a plein, et en même temps, on sait qu'il y aura des belles affiches à Lens, ouais, quoi, déjà.
Mmh. Arsenal, j'aimerais bien.
Arsenal, pour toi?
Ouais, est-ce qu'on pourrait les battre, je pense. Ouais.
Carrément,
ok. Non, c'est bien,
il
faut savoir.
Ça
devrait être
à 98.
Non, moi, c'est passé deux, trois trucs
entre-temps. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir deux club
clubs.
Voilà, moi je, ouais, perso, genre le Bayern et le Milan, je trouve que c'est des clubs historiques, enfin si je les vois sur le terrain, c'est fou, ouais. Et se dire que le club du chapeau 3 serait accessible pour essayer d'envisager une troisième place en groupe, enfin voilà, avoir un truc.
Mais c'est quoi où, d'ailleurs l'objectif pour toi, c'est troisième place?
Oh, bon, tant que ça n'a pas commencé, on sait pas,
on n'a rien à perdre en même temps, oui. Hein, donc toute façon chapeau 4, voilà, hein.
D'en gagner outsider. Un serait top. D'en gagner un
alors sur le plus gros,
ouais.
Alors pour le fun, moi j'aimerais effectivement bien Milan, mais je crois que Milan sera chapeau 3, donc ça vaudrait Milan, peut-être le gros 3, ouais, aussi, donc il faudrait éviter, ouais, même si Milan ça rappelle des bons souvenirs.
Mais le Real Madrid, ça serait...
Et le Real Madrid, ça serait...
Manchester City, Real Madrid,
bah, je préfère United à City, moi, ouais, c'est plus historique pour moi, je plus, mais ouais.
Alors évidemment pour ça, il va falloir se renforcer cet été, on en a parlé. Quelles sont les possibilités pour le Mercato? Quel budget aussi pour le Racing Club de Lens? Réponse à toutes ces questions avec Fanny Cousin.
Le Mercato a ouvert ses portes et le RC Lens se sait sous pression, auteur d'une excellente saison terminée à la deuxième place du championnat. Les dirigeants lensois ont conscience que leurs joueurs seront fortement courtisés cet été. Alors, principale mission pour eux, tout faire pour retenir leur cadre. À commencer par Brice Samba, Kevin Danso, Facundo Medina, Seko Fofana ou encore Loïs Openda. Mais tout dépendra de ce que proposeront les clubs en face. Lens a par exemple déjà refusé une offre de plus de 30 millions d'euros pour son buteur Openda. Déception du dernier Mercato estival avec seulement 8 matchs de Ligue 1 joués. Adam Bouxa, lui, devrait quitter le club direction l'Arabie Saoudite. Prêté par l'OGC Nice l'été dernier, le milieu de terrain Alexis Claude Maurice, auteur de 5 buts en Ligue 1 cette saison, lui retourne sur la Côte d'Azur. Ses performances n'ont visiblement pas convaincu les Sangs et Or de négocier son transfert définitif.
Alors dans toutes ces annonces, est-ce qu'il y en a une qui vous fait plus réagir que d'autres?
Ouais. Moi j'aurais bien aimé garder Claude Maurice, très clairement.
Oui, Maurice, il n'y avait déjà pas de toute façon de clause d'achat directe.
On ne sait pas comment ils se comportent dans le groupe. Si ça se trouve, ils ont des raisons en interne.
Ah, ils faisaient des bonnes rentrées quand même.
Moi, c'est Bouxa. Désolé, je rigole.
On en a parlé.
Mais Bouxa, oui, si on arrive à le revendre rapidement et qu'on retombe sur nos pattes, ça serait cool parce que c'est quand même.
C'était notre plus gros salaire.
Ouais, c'était plus gros salaire quand même de la saison.
Après, faut donc,
ouais.
Effectivement.
Ouais, ça fait un peu badé quoi.
Non, mais moi, ce que je retiens, c'est que le club a refusé une offre de 32 millions. Et ça, c'est bien.
Tu parles de Loïs Openda, ouais, qui a failli partir en Allemagne.
Ils sont ouverts à la discussion, mais on ne va pas brader nos joueurs comme à l'époque de Gervais.
Il y a noté aussi le départ d'Ismaël Bourra, qui est parti à 3. Est-ce que pour vous, il y a des postes à renforcer absolument? Là, cet été, en urgence, la première des choses à faire, sans qu'il y ait de départ forcément acté.
Alors, si c'est pour la Ligue des Champions, on peut supposer qu'il faudrait se renforcer, déjà multiplier quand même quelques postes, parce qu'il y aura plus de rotation. Maintenant, je pense que le premier des recrutements, c'est déjà de garder les cadres et l'ossature, si ça c'est possible, on verra bien. Mais ce serait déjà un grand pas, ça nous promettrait théoriquement déjà une deuxième belle saison de suite, enfin une quatrième même. Hein, mais...
Tu sembles perdre en tout cas Openda, il est déjà d'accord avec Leipzig.
Ça
fait pas partie peut-être des cadres
auxquels c'est compromis, mais après, bon, Openda, c'est quand même 21 buts, c'est 20 buts dans le jeu. Déjà, ça faut le souligner parce que des buteurs qui en mettent 24-25 avec 10 pénalties dans la saison, bon.
Il faut les mettre, les pénaltys.
Oui, il faut les mettre, oui.
Mmh. Je vais pas donner à tout le monde. Un deuxième buteur aussi, peut-être un peu plus efficace.
Ouais, puis le milieu de terrain aussi, quand même, parce que derrière, je pense qu'on a une. Si on n'a pas de transfert, encore une fois, on est plutôt pas mal, mais milieu de terrain, cette année, quand Samed ou Fofana n'étaient pas là, en soi, dans le même registre, on n'avait que Onana. Donc c'est quand même
milieu défensif.
Foreba, il n'a pas fait ses preuves, et je pense qu'il arrive. Enfin.
À voir là,
on verra parce que c'est l'adaptation dans le pays, etc. Ça se trouve,
et pareil,
il peut exploser,
je suis d'accord avec Alex. C'est vrai qu'en soi, Openda, et d'ailleurs, on l'a subi au moment où lui était pas bien, le club était pas bien, on n'avait pas de buteur en fait. Parce que Sotoka joue devant, mais c'est pas le tueur. Et à part Openda, on n'avait pas de buteur.
Sur les ailes, renforcer la rotation quand même. Parce que
c'est vrai que les.
Florian Sotoka, il a fait les pompiers de service très bien. Mais bon, on était un peu juste après la blessure de Cabot.
Ouais, c'est vrai. Bah, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Si on peut avoir un, voire deux joueurs par ligne, c'est le bonheur. Hein, mais...
Donc plusieurs joueurs attendus forcément arriver d'ici cet été. Et du côté du Racing Club de Lens, merci beaucoup, monsieur. On se retrouve dans quelques minutes. On se quitte de nouveau à une petite page de pub. Et puis on va parler maintenant de la saison du LOSC avec nos supporters lillois. A tout de suite. On est de retour dans Cop Nord, on est en train de régler les derniers détails et pour rien vous cacher, on règle juste les sièges en fait. On va maintenant parler du LOSC avec nos supporters en plateau. Bonsoir Patrice Clairaut.
Bonsoir.
Secrétaire des Docs d'Honneur, Guillaume Bataillé, de journaliste local pour Europe 2.
Bonsoir.
Erwan Makwangu et Raphaël Marquant nous ont rejoints. Bonsoir messieurs. On va donc maintenant parler de cette saison lilloise qu'on avait qualifiée la semaine dernière de frustrante, surtout pour le dernier match, pour le match nul face à Troyes. Si on prend donc un peu de recul, on voit que Lille termine 5e avec 67 points, 19 victoires, 10 nuls et 9 défaites, 65 buts pour et 44 buts contre. Même question pour vous messieurs que pour les supporters soit tout à l'heure. Qualifier cette saison en un mot.
Je l'ai donné le la semaine dernière, je n'aurais le même. Frustrante.
Frustrant.
Frustrant. Ouais, frustrant.
Frustrant.
Frustrante.
Frustrant. Ouais,
de l'émotion.
De l'émotion. Ah, déjà, ça change un peu. De l'émotion par le jeu proposé par...
Par le jeu et aussi finalement par la frustration aussi, parce que c'est une émotion. Avec Gourvenec, on a... pas beaucoup vibré, à part avec des champions. Et là, pour le coup, moi, je trouve qu'à chaque match, il y avait une histoire. Et on a pu vibrer en tant que supporter.
Justement, tu parles de l'année dernière. Alors, si on regarde l'an dernier, c'était une 10e place, 14 victoires, 13 nuls, 11 défaites et 48 buts pour, 48 buts contre. Au final, on se dit que tout a changé uniquement en changeant de coach.
On n'a pas changé que de coach, on a aussi bouleversé l'effectif en passant à un nouveau projet. Il y a beaucoup de têtes qui ont changé, beaucoup d'individualités qui ont changé. Donc c'est un nouveau projet qui a débuté avec Fonseca et c'est plaisant à voir sur le terrain.
Il vous plaît ce projet, ce nouveau projet, ce nouveau LOSC, même si c'est frustrant?
Le jeu est plaisant, effectivement. On nous aurait dit en début de saison qu'on aurait fait 5, qu'on aurait signé tout de suite. Après, la frustration, elle vient des 5-6 derniers matchs qui fait que...
Les derniers déplacements, parce qu'à domicile, oui. Lui a enchaîné les victoires.
Quand on va à 3 en étant 4e et en Europa League et qu'on ne gagne pas à 3, effectivement, il y a des grosses frustrations.
Alors comment faire pour éviter que ça se reproduise l'année prochaine? Quels enseignements tirer de cette année?
Le mercato, déjà travaillé, parce qu'on se rend compte qu'on a été beaucoup dans l'urgence, notamment sur le mercato d'été, avec un Adamounas qui est peut-être arrivé en panic buy et qui est déjà sur le départ. Le mercato d'hiver, où on n'a pas assez comblé nos manques, on a eu un Timothy Weah qui a dû dépanner à gauche, à droite, enfin, il est à la limite de devenir gardien. Donc maintenant... effectuer un travail d'anticipation, bien cibler les besoins et puis peut-être que le fait d'être en Conference League et de devoir être opérationnel plus tôt, ça aidera peut-être à avoir un effectif complet.
Donc le mercato, c'est ça qui va faire aussi déjà, en fait il faut garder la base de cette année pour améliorer ce qui peut être amélioré, c'est ça?
Oui, et puis je pense aussi que le jeu de Fonseca, on sait que les entraînements sont compliqués aussi, on a eu quand même énormément de blessés. Donc moi je rejoins Erwan sur le mercato et je pense qu'il y a des postes où il va falloir doubler. Parce que, alors, en dehors de la Conference League, mais c'est vrai que les blessures, ça a quand même été assez récurrent cette année. Et il y a des moments clés et charnières à chaque fois, quoi.
Mais est-ce que Fonseca va changer? C'est ça la question, puisque Fonseca, c'est super d'avoir cette touche, cette proposition de jeu. Mais est-ce qu'il va changer sa manière de faire? Parce qu'on sait que c'est très énergivore ce qu'il demande. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de blessés. Mais est-ce qu'il va changer? C'est ça la question.
Les profils des sujets à blessure.
Pour moi, il ne changera pas, lui. Justement, c'est qu'il va adapter l'équipe dans le mercato à ce que lui veut faire et sur quoi il veut avancer.
On va juste parler aussi de ce qui a été plutôt marquant cette année. C'est la réussite des Lillois à domicile. Ils terminent 3e du classement à la maison, 9e à l'extérieur. Là aussi, apprendre à voyager, ça peut être une bonne résolution pour l'année prochaine.
Bah, c'est plus apprendre.
Ça peut être bien. C'est plutôt un état d'esprit. Moi, j'ai envie de sortir ça, puisqu'on a vu à la fin de la saison, on avait des déplacements qui paraissaient plutôt aisés sur le papier, avec Angers, Troyes, Auxerre, des équipes de bas de tableau. Et finalement, on a vu qu'on manquait le coche face à des adversaires plutôt plus simples.
Donc, c'est ça, Auxerre à Troyes, Angers.
Voilà, c'est plutôt l'état d'esprit, peut-être avoir une niaque différente, ou avoir vraiment envie d'être des tueurs, comme notre président l'a dit.
Travailler devant le but, parce qu'il y a eu énormément de problèmes d'efficacité cette année. Et puis, peut-être être... se sentir moins supérieur par rapport aux petites équipes, ce qui arrivait très souvent. Par exemple, le match à Angers, qui était une catastrophe, pas au niveau du jeu, mais au niveau des actions. Il y en a eu beaucoup d'actions, celle de Zegrova. Mais au final, tu repars avec une défaite contre le dernier. C'était une catastrophe, ce match.
Et une dernière statistique, donc, pour parler du jeu, Lille, qui est l'équipe qui a eu le plus le ballon cette année en Ligue 1, 60,89% de possession en moyenne. Là-dessus, on est vraiment sur quelque chose d'assez important. Le meilleur joueur pour vous cette saison, côté Lillois, Patrice?
Cabella.
Cabella aussi.
Cabella.
Chevalier.
Trois contre un. Cabella, Chevalier, donc sa première saison, qui titularise, qui garde plutôt les buts. Et donc Cabella, qui, je suppose, sera votre meilleur recrue aussi.
Diakité.
Si on joue entre les deux. Mais recrue, j'aurais dit Fonseca.
Fonseca, mais en joueur.
En joueur, ouais, Cabella.
Cabella, forcément. Qui est la déception pour vous, côté Lillois?
Bayo,
Ounas. Donc on est sur deux recrues là aussi. Pour vous, le meilleur match que vous ayez vécu cette saison?
Pour moi, c'est celui à Rennes.
Rennes
3-1. Il y a un début de match assez catastrophique avec
le Euro, la boulette.
Tout début. Et puis après, on a vu que Lille savait voyager, pouvait voyager avec une démonstration de caractère qui était assez impressionnante. Le but incroyable d'André Gomes. Ouais, j'aurais pu le mettre dans les meilleurs recrues d'ailleurs aussi, André Gomes.
Il est donc normalement reparti. Direction Everton, Patrice.
Marseille.
Marseille, le match à Marseille.
Le match ici.
Le match
contre Marseille. Ça sentait la poudre, bon, pas que la poudre.
Ça sentait un peu le gaz.
Le gaz énormément dehors, mais surtout. Non, ça sentait la poudre. Je pense que c'était une bascule à ce moment-là. Il fallait gagner ce match-là pour jouer l'Europe, comme on vient de le faire. Et effectivement, ça nous a lancé la fin de saison. C'était un vrai, vrai beau match.
Erwan.
Le 4-3 contre Monaco. Je pense que c'est le match au stade où j'ai vraiment vibré avec un scénario incroyable du jeu, des actions, des buts, une ambiance de folie aussi.
Erwan, pardon, Raphaël.
Il se parlait d'émotion tout à l'heure, donc Lille-Monaco aussi, 4-3, c'était un match fantastique.
On va maintenant oublier cette partie positive. Il va falloir qu'on parle un peu du côté négatif. Le pire match pour vous?
Angers, évidemment.
Angers, la défaite à Angers.
Ouais, Angers.
Angers, t'as hésité?
Oui.
Il y en a eu plusieurs?
Il y en a quelques-uns. Il y a trois également.
Angers, trois. Ouais.
Pour changer, je vais dire trois.
Trois.
Moi, je dirais Lille-Clermont, à domicile, où on n'a vraiment pas maîtrisé notre sujet, ça fait 0-0. Et pour le coup, à domicile, c'est à noter, parce que c'est un match qu'on aurait pu très bien perdre. Le mérite revenait à Clermont, pour le coup.
Et s'il fallait retenir un but cette saison, le but le plus spectaculaire?
Moi, je dirais celui d'André Gomes, parce que ça résume bien l'équipe, et puis ça résume bien le joueur aussi. Plein de finesse, très technique. Et puis c'était surtout dans une rencontre qui était vraiment incroyable, avec une belle victoire à la clé.
Patrice.
Le deuxième but de Jonathan David contre Auxerre sur la première journée, où il y a ce jeu en triangle avec cette passe à l'aveugle de Cabella, et ça nous a montré ce qui nous attendait justement dans le reste de la saison.
C'est un vrai sujet. Tu espérais voir sur le
voilà, et on l'a vu après. Mais effectivement, ça a mis, on a vu la patte là tout de suite sur ça, et ce but est magnifique.
Erwan.
Ce sera aussi le but d'André Gomes contre Rennes, qui est l'aboutissement de la meilleure demi-temps du LOSC sur une saison et l'aboutissement d'une performance individuelle incroyable.
Raphaël?
Ouais, ce sera celui d'Angel Gomes contre Pau, une belle frappe de mule qui récompense un peu sa saison, bien meilleure que la précédente.
On a parlé donc de beaucoup de tirs tentés hein, côté Lillois. Et deuxième équipe qui a tenté le plus cette saison en Ligue 1, 557 tirs. Ce qui a marqué aussi, c'est le manque de réussite, 21 poteaux. C'est le deuxième, la deuxième équipe à taper autant les montants dans les top 5 championnats européens. Ce manque de réussite, là aussi, il va falloir travailler dessus, ou c'est un manque de chance cette année et ça va finir par passer?
Il y a un petit peu des deux. Je pense que ça ne travaille peut-être pas assez à l'entraînement dans ce domaine-là, mais on peut faire confiance à Fonseca pour la rigueur. Et puis, je me répète, mais peut-être qu'ils se sentent trop... trop supérieurs parce qu'ils sont meilleurs dans le jeu, peut-être. Et puis, voilà.
C'est aussi une question
de réalisme.
De profil.
Ouais, ce que j'allais dire aussi. Moi aussi, je suis d'accord.
C'est une question de profil aussi. On a beaucoup de joueurs créateurs dans le jeu. Même David, finalement, n'est pas un tueur devant le but. C'est un 9,5 qui est capable de redescendre.
On n'a pas un vrai 9. On a un bon buteur qui finit 3e meilleur buteur du championnat.
Il est particulier.
Mais on n'a pas le vrai 9 comme on avait quand il était autour de Bourak, qui lui était un vrai 9 il y a encore 2 ans. Et on n'a pas ça, quoi. Et effectivement, ben, l'efficacité, elle passe par, je pense, ce vrai neuf qui aurait dû être Bayo.
Et à noter aussi, ce qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder, un beau jeu de Paulo Fonseca sur une belle pelouse, parce qu'enfin, cette année, elle a tenu, elle n'a pas eu à être changée. Ça aussi, ça pu jouer, parce qu'on a tendance à l'oublier qu'on avait la pelouse du stade Pierre Mauroy était en difficulté souvent l'année dernière. Là, le fait d'avoir enfin trouvé un terrain permet aussi de développer un jeu rapide.
Comme on joue plus technique, on l'abîme moins peut-être aussi.
Ça doit jouer, ça doit jouer sûrement là-dessus. À noter aussi, il y a de plus en plus de supporters qui suivent à l'extérieur. Je ne sais pas si on a vu, notamment les 3000 supporters à 3, la fanwalk et tout. Ça aussi, toi qui gères pas mal de déplacements, ça doit faire plaisir.
Ouais, parce que cette année, c'est vraiment... Alors surtout sur la deuxième partie de saison. Mais c'est vrai qu'on a fait... On est quatrième moyenne de mémoire à l'extérieur. Sur les derniers chiffres qu'on a reçus. C'est un vrai bonheur. On voit beaucoup de nouveaux, beaucoup de jeunes qui suivent. Et voilà, on tourne quasiment à 1000 sur les derniers. Et si on continue sur cette vague-là, ça peut être vraiment sympa.
Ce qui s'est passé à 3, c'est le bel exemple.
Ouais, complètement. Mmh. Et dans les bus, on le voyait, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes qui n'avaient jamais fait de DEP. Qui n'avaient jamais fait de déplacement de leur vie, qui reviendront.
Et à noter donc que la reprise pour le LOSC, ce sera un retour au domaine de Luchin le 7 ou 8 juillet prochain. On n'a pas plus de détails pour l'instant. On va maintenant parler forcément du mercato. Ça arrive bientôt, ça arrive même très vite. Quels sont les postes à renforcer du côté du LOSC? La réponse tout de suite avec Fanny Cousin.
Les grandes manœuvres ont commencé pour le LOSC avec un objectif, construire un effectif capable de jouer et la Ligue 1 et la Ligue Europa Conférence. Du côté des départs, celui d'André Gomes est déjà acté. Prêté par Everton, le milieu de terrain portugais ne disputera pas de deuxième saison avec les Dogs et va retrouver les Toffees. En fin de contrat, le capitaine du LOSC, José Fonte, ne sait lui toujours pas si son club a l'intention de le prolonger. Après 5 saisons passées et 195 matchs joués, le Portugais espère continuer son aventure lilloise. Son coéquipier en défense, le Brésilien Ismaili a lui officiellement été prolongé d'un an. Et puis le gros dossier de ce mercato estival pour le LOSC, c'est l'avenir de son attaquant Jonathan David. Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'international canadien a obtenu un bon de sortie de la part de ses dirigeants qui réclament plus de 50 millions d'euros. Des clubs anglais comme Manchester United ou Chelsea seraient intéressés. Jonathan Bamba devrait lui quitter le club librement. En fin de contrat, l'ailier ivoirien ne sera pas prolongé par ses dirigeants qui lui cherchent déjà un remplaçant. Il pourrait s'agir du Brestois Franck Honora, auteur de 6 buts en Ligue 1 cette saison. Le LOSC qui récupérera également cet été plusieurs joueurs de retour de prêt, notamment l'international turc Yusuf Yazici et le latéral droit Hakim Zedatka.
Il revient.
Alors il y a déjà plusieurs choses à retenir, mais avant qu'on parle des annonces, il faudrait qu'on parle des non-annonces. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas si André Gomes, même si son prêt est terminé, revenir, on ne sait toujours pas si José Fonte pourrait prolonger, ni Jonathan Bamba en soi. Il y a quand même plusieurs fins de contrat et Lille n'a jamais vraiment officialisé, si ce n'est quelques instants sur son compte Twitter. J'ai bien vu ce petit rictus, Erwin. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire quand un club comme ça ne communique pas si rapidement? Est-ce que c'est inquiétant, justement, ce manque de communication du club?
Ça veut dire qu'ils prennent leur temps, peut-être.
Mais pourquoi prendre son temps maintenant?
Oui. Bah, je trouve que ce serait pas inquiétant si c'était un phénomène isolé, mais on remarque dans la communication du LOSC une certaine continuité dans la non-communication, où on se contente juste de photos de joueurs à l'entraînement. Patrice parlait des 3000 supporters lillois à 3 justement la dernière journée. Le LOSC n'en a jamais parlé. Ça a toujours été des petits
comptes. Quelques petits messages, mais...
Voilà. Mmh. Mais deux jours avant...
Tu attendais plus du club qui souligne ce déplacement-là. Pour toi, Patrice, c'est inquiétant, cette communication?
Non, parce qu'on n'est pas dans une période où on parle, parce que le mercato est de mémoire pas encore ouvert. Où
il a ouvert. Il a par exemple prolongé un José Fonte ou le faire partir.
Alors, sur Fonte, on en parlait juste avant de reprendre l'antenne, mais je crois que personne ne sait aujourd'hui réellement s'il s'en va ou pas, il n'y a pas de bruit. Bamba, il est parti. Ça, c'est clair. On entend des bruits quand même. On va être dans cette période là où c'est un peu drôle, il faut fermer les oreilles, où s'éclater. On dit qu'André Gomes, si Fonte terrestre, pourrait être reprolongé pour une année suivante. Il y a plein de choses comme ça.
Ouais.
Voilà, il y a trop de on-dit. Et où je rejoins Erwan, effectivement, sur la com du LOSC, aujourd'hui, il y a des trous dans la raquette. Les lancements des réabonnements n'ont pas été communiqués par le club. Voilà, on n'est pas là. Le LOSC n'est pas sur ces communications-là de réseaux sociaux. Donc il n'y a rien qui se dit. Et peut-être que c'est pas plus mal finalement que travailler en sous-marin et sur les contrats. On sait que des fois c'est peut-être plus simple.
Alors ce qui se dit pas forcément, mais ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est donc que si Ismaili prolonge d'une année, Paulo Fonseca devrait rester.
C'est ce qui se dit. Je pense que c'est
ça pour l'instant. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de.
Non, c'est débat. Avec l'autre, je pense.
Oui.
Il y a une autre rumeur sur les réseaux sociaux. Il va forcément falloir qu'on en parle. C'est un hashtag qui a beaucoup tourné sur Twitter. Le retour d'Eden Hazard. En fin de contrat, lui, c'est officiel. Il est parti du Real. Est-ce que vous le voyez revenir au domaine de Luchin?
Je dirais bien quelque chose, mais je vais me taire.
Bah, tu peux,
trop tard.
Exprime-toi. On m'a toujours appris, on ne recouche pas avec ses ex.
Bah, ça marche. On peut. Et donc, toi, voilà. tu vois pas ça d'un bon oeil.
Ah, c'est pas que je vois pas ça d'un bon oeil.
Tu crois pas du tout, même.
C'est hyper rare, quand même, les joueurs qui reviennent dans des clubs après être partis pendant longtemps et où ça fonctionne vraiment. Les exemples sont.
À part la Cazette à Lyon.
Ou alors Lyon, parce Tolisso qu'ils ont refait leur équipe. On a l'impression que c'était Deloréan à l'envers, ils ont fait, parce qu'ils ont pris quasiment toute leur équipe. Mais un joueur seul comme ça, j'ai pas souvenir.
Ça me fait penser à Varane qui va peut-être revenir à Lens. Enfin, il y a une rumeur aussi.
On est sur d'autres rumeurs, effectivement.
Ouais. Je pense que c'est pas une bonne solution.
Ouais.
C'est pas...
Bah, si Eden Hazard revient, j'achèterai tous ses maillots, je les floquerai tous, ça c'est sûr. Mais je suis pas convaincu que ce soit la bonne idée. Parce que déjà, même s'il fait des efforts sur son salaire, ce sera une charge sur la masse salariale. Puis il faut voir s'il est compatible avec Fonseca, même si ça reste un super joueur. Donc je sais qu'on a beaucoup critiqué Ounas justement pour son salaire et le peu de matchs qu'il a joué. Bah là, si c'est pareil avec Hazard, bah bien sûr on le critiquera pas parce que ça reste une légende, mais ça aura les mêmes effets sportifs sur l'équipe.
Raphaël,
je pense qu'on adorerait tous, mais c'est un pari très risqué comme tout le monde a pu le dire.
Je suis d'accord avec Aaron, il est pas compatible du tout avec Fonseca. Manque d'investissement, il manque de rigueur, même c'est si c'était un super joueur, mais il donne quoi aujourd'hui? On l'a pas vu,
c'est
ce qu'il donne sur le terrain.
Moi, je pense qu'il faut rester sur la bonne image qu'on a eue.
Oui,
et ce qu'il a fait. Et voilà.
Il y a une recrue, enfin, ce qui pourrait ressembler à une recrue qui va arriver cet été, c'est le retour de blessure de Thiago Diallo. Là, pour le coup, lui, il est vraiment très attendu. Il ne devrait pas partir cet été. Là, lui, il va faire beaucoup de bien aussi.
Oui. Parce qu'il était, en plus, juste avant sa blessure, il ne faut pas oublier qu'il était devenu le pilier de la défense. Vraiment, parce qu'on parlait plus de mettre Yoro à côté de Diallo que de garder Fonte sur le terrain. Il était devenu le patron de la défense. Donc après la blessure qu'il a eue, c'est les croisés de mémoire. C'est pas simple. Le retour sera pas simple, c'est pas avant décembre de mémoire. Mais oui, c'est un vrai bon retour. Ça peut être une très bonne recrue.
Bah, c'est un très bon élément.
Oui, qui fera finalement la recrue du mercato hivernal.
Et on va parler aussi de cette Coupe d'Europe qui arrive à grands pas, puisque si l'UEFA acte donc la participation de Toulouse en Europa League, ce sera donc le tirage au sort de ces barrages le 7 août, puis les barrages aller-retour les 24 et 31 août, et il y a ensuite le tirage au sort des phases de poule le 1er septembre. Jusque où vous voyez ce LOSC aller dans cette Ligue Europa Conférence?
Éliminé en barrage, comme en 2016 contre Kabbalah.
Non, mais... Comme objectif, il faut viser haut, même si on sait qu'on n'a pas forcément le plus grand pédigré en Europe. Je pense qu'on aurait dû être en Europa League, donc si on est en Conference League, il faut au moins viser les quarts ou les demi-finales. C'est un objectif, en tout cas, qui peut être viable pour un club comme le LOSC. On a vu la FIO et West Ham en finale, je pense qu'on n'a rien à envier foncièrement à ces clubs.
Et puis Nice, avec une équipe plutôt moyenne cette année, est allée au quart. Après, on va pas faire les malheureux, mais je crois que c'est la première année depuis c'est la troisième année, la Conference League, mais c'est la première année où il y a des équipes aussi costauds quand même, parce qu'il y a déjà la Juve qui arrive, il y a Francfort, elle est en train de s'étoffer cette compétition, mais un quart de finale, ce serait sympa.
Quart de finale, et Guillaume?
Oui, mais après, ça dépend.
Jusqu'où tu les vois aller?
On va parler du mercato, mais ça dépend si les postes sont doublés.
Mais ça dépend aussi comment tu construis ton mercato. Si tu construis ton mercato pour aller plus loin en Ligue Europa Conférence, ça va être très dur à réfléchir. Il y a un choix qui doit être fait, en tout cas.
Tous les cas, il faut doubler les effectifs, hein, comme dit Guillaume, parce que même si la Conférence League n'est pas un objectif, ça va prendre de l'énergie, ça va prendre du temps, et on risque de le payer en championnat si on n'a pas un effectif suffisamment fourni, hein, dans tous les cas.
Et puis, je voudrais qu'on parle juste d'une dernière chose. On va parler, de manière un peu exceptionnelle, on va parler de la fin de saison, mais cette fois-ci, des féminines du LOSC. C'est donc le retour dans l'élite pour les féminines du LOSC. Le retour dans l'élite, donc, après 2 ans en deuxième division. On dit quoi, objectif maintien, Raphaël, toi qui les suis un peu?
Ah bah oui, je pense que là, déjà, l'objectif depuis de nombreuses années, c'était la montée. Donc, on va faire pas après pas. On a un bel effectif avec un beau jeu depuis cette saison qui est vraiment agréable à voir. Donc, le maintien, ce sera la priorité. D'autant plus que j'ai vu que Olivier Létang voulait qu'on ait les matchs au stade Pierre-Mauroy. On verra ce que ça donne, mais j'espère qu'il y aura quand même un engouement significatif derrière elle.
Mais pour toi, cet objectif maintien, c'est réalisable? On est sur un projet qui doit continuer de se construire.
Tout à fait. C'est, de toute façon, on ne peut pas faire le yo-yo tout le temps. Il faut absolument s'éterniser dans cette ligue. On est le LOSC finalement. Les féminines aussi doivent être au haut niveau.
donc doivent être en D1 Arkema. Et ça arrive donc l'année prochaine, à noter qu'elles ont quand même fait de beaux scores, notamment dans le derby. Je dis ça parce que dans quelques instants, après une courte page de pub, les Lensois qui nous écoutent, ils sont dans la salle juste à côté, forcément vont vouloir faire monter un petit peu la température. On retrouve les vannes donc dans quelques instants, juste après la publicité. A tout de suite.
Plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière, votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2000 euros et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur BFM Grand Lille. Enfin, une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous.
Ce soir, à 21h10, deux inédits. Sur RMC Story, l'énigme de Fatima. Que nous cache le Vatican ? Et sur RMC Découverte, une nouvelle voiture passe entre les mains de Mike et Elvis dans Wheeler Dealers. Bonne soirée.
Au programme, ce qui vous parle à vous.
Info locale, culture, météo, proximité, sport, vie quotidienne. Retrouvez tous les replays des 10 chaînes BFM Région sur RMC BFM Play. Sur mobile, tablette et web. Il se lève tôt pour que vous soyez les premiers informés.
Merci d'être avec nous et bon réveil. Bonjour Adeline.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Dès 6h sur BFM TV.
Avec toujours de l'actu, de l'écho, de la politique, de la météo, de la culture.
Ici, on parle de tout.
Les grandes douleurs sont muettes, c'est peut-être ce qu'a oublié Emmanuel Macron. Il n'y aura pas de chèque transport, il n'y aura pas de bouclier.
Là, ça va être au bon vouloir de la SNCF.
La bonne nouvelle, c'est quand même que c'est fabriqué en France.
Aucun sujet n'est tabou.
Vous êtes prêts? C'est une information BFM TV ce matin. Michel Sardou revient.
Rien n'est interdit.
Je vous propose de vous frotter au quiz de Miss France pour voir si vous avez le niveau.
Et surtout pas la bonne humeur.
Tu as remarqué, jolie cravate. Hein.
Ouais. Oui. C'est un cadeau de Martin.
Il avait besoin.
Première édition, du lundi au vendredi, de 6h à 8h30, en direct sur BFM TV.
Ça y est, on a fait rentrer tout le monde en plateau. Ça sent vraiment la fin de la saison. Je voulais d'abord vous remercier tous de votre participation au fur et à mesure de l'année. Ça a toujours été un plaisir d'écouter vos avis, même si on n'était pas forcément toujours d'accord. Mais c'est toujours très intéressant de pouvoir vous avoir. Et j'espère que ça continuera encore l'année prochaine. J'en profite aussi pour saluer tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, mais qui sont évidemment sûrement derrière leur téléviseur. On voulait saluer aussi cet autre moment fort de football, évidemment, cette année de la région. C'était au mois de janvier, les 16e de finale pour Pays de Cassel contre le PSG. Ils ont fini premier de leur poule de R1. Ils montent en National 3. Forcément, une pensée pour Gabriel Bogard qui était venu sur ce plateau. Juste avant, le fameux quiz dont on a beaucoup parlé, je voulais qu'on vous montre aussi ce 11 de l'année. On l'a fait avec le reste de la rédaction. Alors, on l'a fait avec le site de la Ligue 1. On ne peut pas mettre Benjamin André, par exemple. On n'avait pas le choix, donc on a mis Valentin Rongier. Mais on a donc Brice Samba, Kevin Danso, Frankowski, Mbemba et Nuno Mendes à gauche, parce que là aussi, on n'avait pas forcément beaucoup de choix. Seko Fofana, Rémi Cabella est devant Mbappé, Loïs Openda et Alexandre Lacazette pour vous. Si on met Benjamin André, évidemment, à la place de Valentin Rongier, on est sur une très bonne équipe. Il y a d'autres choses peut-être à corriger?
Nuno Mendes.
Nuno Mendes, oui, ouais, effectivement, là aussi. Joué. Malheureusement,
18 pas... matchs dans la saison, c'est pas assez. Hein.
Là, on n'avait pas forcément le choix. On aurait bien mis Ismaili, par exemple. On n'a pas pu. On n'a pas pu. On est bon. On peut vous joindre à ce 11 de l'équipe. On dit qu'on l'a fait tous ensemble.
Pas Messi, donc,
ouais, c'était plus ou moins le projet. complètement pas Messi. Donc dans cette équipe, Benjamin André, justement, on en parlait il y a quelques instants. 277 duels gagnés par le milieu de Ligue 1. C'est le joueur qui a remporté le plus de duels dans cette division. C'est le quatrième joueur de Ligue 1 qui a touché le plus de ballons. Le deuxième qui en a récupéré le plus. Évidemment, il ne sera pas en équipe de France encore cette fois. Est-ce qu'on parle d'un des joueurs les plus sous-cotés de la Ligue 1? Parce que même là, la Ligue 1 ne l'a même pas retenu dans l'équipe type de la saison. Alors qu'on avait une dizaine, je crois, de milieux.
On avait eu le débat. On avait eu le débat au moment de la liste avec. On avait un peu comparé avec Veretout.
Ouais, je me souviens.
Voilà. Rien à ajouter. Si Veretout est en équipe de France, André, il doit y être tous les jours. Quoi. Donc,
ouais, mais. Parce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas eu d'expérience à l'étranger. Et je crois que. Oui, mais. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'avec Didier Deschamps. Il faut avoir une expérience à l'étranger, j'ai l'impression, pour être en équipe de France, en tout cas à son âge, parce qu'il quoi, il a 30 ans.
Klaus, il avait été pris en équipe de France sans expérience à l'étranger, tu vois, par exemple.
Oui, mais il n'y avait jamais revenu.
Il n'est jamais revenu.
Par exemple.
Il est violent, c'est pas très
voilà. Ça doit jouer. Juste une question sur les pronostics la saison prochaine. On n'était pas trop mal l'année dernière. Personne n'avait évidemment prévu cette année record du côté de Lens. Mais qu'est-ce que vous voyez, vous ? Alors, effectivement, il reste encore pas mal de choses à aborder. Mais qu'est-ce que vous voyez l'année prochaine pour Lens et pour Lille ? Je me tourne d'abord côté Patrice, puisque c'est celui qui fait le plus de bruit, évidemment.
Je fais pas de bruit.
Je réfléchis.
Je veux quoi ? La position de Lens à la fin de la saison ?
Non, comment non, tu, non. Vois, tu vois quel championnat l'année prochaine pour Lille et pour Lens ?
Alors, pour Lens, je le vois, même si je suis lillois, je pense que ça peut être compliqué. Parce que la Ligue des Champions, nous, on l'a vécu.
Ça use.
Ça use. Et aussi psychologiquement. C'est vraiment très, très, c'est très compliqué et on le voit à chaque fois. Les équipes qui, pour la première fois, jouent, du moins, la première saison, ils rejouent en Ligue des Champions ou jouent la Ligue des Champions, ils souffrent derrière. Donc voilà. Lille, à l'heure actuelle, je suis incapable de répondre. Parce que c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Quelle équipe va jouer, etc., etc. Dans l'idée de Fonseca, c'est qu'on soit au-dessus de la 5, donc 4. En plus, l'année prochaine, je crois que c'est 4 en Ligue des Champions.
Il faudrait reposer donc, la question à la fin du Mercato.
La 4, ce sera.
On fera ça, promis. Ouais, de toute façon, normalement, la Ligue 1 revenant très bientôt, on devrait pouvoir, nous aussi, coller nos agendas. Adrien, t'as pas encore entendu. C'est l'occasion.
Non, effectivement, l'Europa League, je pense, l'année prochaine pour Lille, ce sera l'objectif. On passe un step au-dessus de la Conference League. Et puis pour Lens, je pense que s'ils arrivent à se maintenir dans le top 10 de la Ligue 1, ce sera l'objectif et faire un bon parcours en Ligue des Champions. Je pense que Lens signera l'année prochaine.
Denis ?
Oui, malgré le scepticisme de Patrice, mais j'ai envie d'y croire quand même.
Le scepticisme de Patrice ?
Ah non, moi, c'est pas du scepticisme. Hein, c'est.
Non, mais c'est vrai que je pense que ça va être chronophage et énergivore la campagne en Ligue des Champions, mais je pense que ça peut quand même aussi générer aussi pas mal de choses positives au niveau de l'équipe. Donc, moi, je dis qu'un top 5, déjà, ça serait pas mal.
Ouais.
Pour Lens et Philippe, je pense que effectivement, on peut désirer.
L'important, c'est le maintien. Ça commence par là. Ça commence par là. Giroud, vous le connaissez bien, en plus, bien du sûr. Côté de Lens. Je comprends qu'il fasse la citation. Voilà, une balle rendue.
On a fait un petit cadeau en fin de saison.
C'est vrai. Cosser, voilà. C'est vrai. Cadeau. Oui. Bon
je
retour.
Je pense que Lille va continuer à progresser. Ils sont sur des bonnes bases. Donc, ouais. Ils ont tout pour faire une très bonne saison. Et on leur souhaite une bonne saison, surtout à Patrice.
Ça, c'est beau, vous voyez, c'est ça aussi, Cop Nord.
C'est beaucoup trop gentil.
Là, ils sentent déjà qu'ils ne vont pas gagner l'année prochaine. Ils sont déjà en train de cirer les pompes. On a repris le devant.
Bon, un petit peu de compétition avant de se quitter, bons amis, comme d'habitude. Un quiz, évidemment, pour commencer. Concentration intense. Cette saison encore, Lille et Lens ont gardé leur entraîneur toute la saison, on en a parlé. Mais combien de coachs ont perdu cette année leur poste ?
8, 16, 13.
Non.
14,
15, 12, 7,
10,
12.
Effectivement. Peter Boss, Der Zakarian, Furlan, Garcia, Daloglio, Irles, Batic, Stéphane, Favre, Pito, Boisama et Comboiré. Deux entraîneurs d'Angers quand même.
C'est
quand
même. Tu dors, ça compte pas.
C'est quand même la Tudor, non, parce qu'il est parti plus ou moins à l'insu de son plein gré, comme on l'a dit. 38 journées de championnat, combien de supporters se sont rendus dans les stades en Ligue 1 cette année ?
1 200 000.
Beaucoup plus.
Non, 4 millions.
Non, 2 300 000.
Beaucoup plus.
600 000. 600 millions.
Je ne m'attendais pas à faire le juste prix. 600 millions.
3 250 000.
17 millions. Plus.
14 millions.
Moins.
6 millions.
C'est 11 plus. Millions 200.
Moins. Le rideau.
Le rideau.
On
va
y arriver. Non,
mais
c'est
en
moins.
Plus, on est dans la config, tu vois.
C'est moins.
8.
C'est moins. C'est plus, pardon. Non, c'est plus. 9 millions à peu près, effectivement. 9 millions 50 000 précisément. Donc, c'est une des Ligue 1, une des éditions de Ligue 1 qui a attiré le plus.
Ouais, c'est ça.
À peu près. Ça fait quand même 2-0 pour l'instant. Vous rigolez, mais ça mène 2-0 du côté de Lens. La Ligue 1, elle reprend quand ?
Le 13 août.
Le week-end du 12-13 août. 2-1. Ça remonte côté lillois. Ce sera la 86e édition du championnat de France de football, mais la combientième sous l'appellation Ligue 1 ?
21e.
Non.
12e.
Non.
14e.
Qui était tout presque.
22,
c'est venu de, c'est venu de Patrice. Ça fait 2-2 égalisation. Quel est le plus gros score de l'histoire de la Ligue 1?
9-0.
9-0.
13-1.
Non.
13-0.
Non, c'est pas
10-1.
Non.
5-5.
Non.
12-0.
Il y a un 1, effectivement. 8-1, effectivement. 8-1, c'était en 2006. C'était un Lyon-Le Mans. 3-2. Et la dernière question, c'est une question à 5 points. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer en 2 mots comment fonctionne la Ligue Europa Conférence?
Non.
Mais personne ne sait pas. Non, personne ne sait pas. Effectivement, on voit bien que c'était pas vrai. C'était pas du tout une question à 5 points.
Il le sait. C'est donc, tu te qualifies, tu joues. Tu joues,
deux mots.
Tu gagnes pas, tu joues plus, tu gagnes, tu continues.
Ouais, mais du coup, ça compte pas. Et de toute façon, la victoire, elle est quand même pour vous, côté Lillois. Une victoire 3-2. Bravo à vous. C'est déjà la fin de cette saison de Cop Nord. Merci donc à tous ceux qui sont venus sur ce plateau. On va pas tous les citer parce que sinon, je risque d'en oublier. N'oubliez pas que vous aussi, si vous êtes supporter de Lens, vous pouvez rejoindre un petit peu cette équipe. Pourquoi pas l'année prochaine, on s'envoie des messages sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme ça qu'on s'est plus ou moins tous connus. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on pourrait continuer d'agrandir cette équipe l'année prochaine. Merci évidemment à Théo Derangeon qui a la réalisation de cette émission chaque semaine, qui s'en sort très bien. Et merci aussi à la rédaction d'AMC Sport. On se retrouve à la rentrée. À bientôt, salut.